Le 24 juin dernier avait lieu le vernissage de l'exposition Parcours d'œuvres Transhumance. Les commissaires ont sélectionné dans la collection du Centre national des arts plastiques des œuvres qui ont été disséminées dans l'espace public ou réunies en exposition au Centre d'art de l'île de Vassivière. Pour l'occasion, le CNAP a également passé une commande d'œuvres à deux artistes choisis par la direction du centre, Reto Pulfer et Liliana Motta. Liliana Motta est paysagiste ou artiste paysagère. À quelqu'un qui lui demande la différence entre l'art et le jardinage, le jour du dévoilement de son geste paysager, elle a répondu « Ma pensée est artistique, mais au lieu de la réaliser avec des pinceaux et un tableau, je la réalise avec des sacs de jardinier. » Retour sur son parcours avec Liliana Motta.
Ça a commencé un petit peu avec des idées politiques, cette manière de travailler, puisque j'étais dans des quartiers où il y avait beaucoup de problèmes, que c'était des sites pollués, que c'était investi par des gens très pauvres, mais qu'on ne voulait pas déloger. Et donc, il y avait cette idée de faire, avec cette technique de protocole, une maquette à l'échelle 1 de ce que ça pourrait devenir un changement dans ce quartier, avant de vraiment le faire par une entreprise, une équipe d'architectes, et donc les gens avaient réagi assez positivement. Tout ce qui avait été très problématique en réunion, dans une maquette à l'échelle 1, disons, pas entièrement du projet, mais de certaines choses, les gens étaient d'accord. Donc, si tu veux, cette manière de travailler me permet... En fait, c'est ce que je me suis rendu compte dans ces premiers travaux que je faisais, c'est que le social prenait beaucoup, beaucoup sur ma partie créative, quoi. Et en fait, je passais beaucoup de temps j'ai devenu plutôt médiateur social, et mon installation, elle s'est sacrifiée beaucoup à cette... Mais c'était mes premiers pas dans cette idée.
Est-ce que c'était un problème ?
Non, mais c'était pas du tout un problème, mais je suis pas douée, c'est pas mon rôle, si tu veux, je suis pas un médiateur social, voilà. Donc je faisais évidemment des erreurs, puisque c'était pas mon rôle de donner des terres, je faisais des choses complètement, c'est pas mon rôle d'être médiateur social. Mais en fait, cette manière de travailler a inspiré beaucoup des mairies, qui maintenant travaillent avec des collectifs qui font, et avec des délégués des mairies, voilà. Mais c'était, si tu veux, j'ai toujours eu beaucoup de peur de travailler dans le monde artistique, tandis que j'avais commencé dans le milieu artistique, mais j'avais beaucoup peur de l'action artistique, puisque je la trouvais toujours très humiliante en tant que femme. Je trouvais toujours, si tu veux, un côté très pesant, très masculin, et que la création devait être inaccessible pour qu'elle soit bonne. J'avais plein de préjugés sur ça. Et donc, j'ai toujours essayé de m'éloigner de ce qui était vraiment une action purement artistique. J'ai toujours essayé de dissimuler, si tu veux. Et en fait, elle ressort tout simplement, parce que bon, tu ne peux pas dissimuler ce que tu es. Voilà. Et donc là, maintenant, avec l'expérience, puisque ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille de cette manière-là, si tu veux, j'ai plus de liberté et je n'ai plus besoin d'une excuse sociale pour pouvoir dire, ben voilà, c'est une installation, c'est un projet qui se passe comme ça.
Pour le bois de sculpture de l'île de Vassivière, elle a choisi de faire émerger un lieu.
Moi, ce que je voulais, c'est une scène, donc un plan incliné. Et pour moi, le spectacle qui est à mettre en valeur, c'est le lac. C'est l'essence même, ce qui fait que cet endroit-là soit une île. Donc l'essentiel, c'était d'avoir un plan incliné, d'avoir une végétalisation en demi-cercle qui provoque cette sensation de scène, donc pouvoir avoir en même temps un spectacle, en même temps qu'on voit le lac en bas. D'un point de vue sonore, c'est bien d'avoir les musiciens en bas, y avoir le public qui soit là-haut.
Dans le cadre de l'exposition Transhumance, de nombreuses œuvres exposées sont des œuvres à protocole, des œuvres réactivables en différents lieux. Dans le cas des actions paysagères, c'est tout de même le site qui prévaut. Si Liliana Motta a pu considérer la question de l'île en dehors du site, comment travaille-t-elle une fois qu'elle arrive sur place ?
Le protocole commence par mettre, si tu veux, une liste de tout l'existant. Ça veut dire que tu divises tes éléments, tu comptabilises pour savoir si la... Par exemple, quand on fait une expérience, on dit je prends un pot, je prends de l'eau, donc tu fais cette manière de faire un protocole expérimental. C'est pour ça, premièrement, c'est l'expérience. L'expérience regroupe aussi l'idée de situer... C'est des mots-clés, expérimentation, mais ça c'est le protocole, et ensuite il y a la méthodologie, et la méthodologie commence par le diagnostic, l'existant, et voilà. Donc tout ça, évidemment, c'est rédigé, écrit, si tu veux, je peux te faire part de cet écrit, mais disons que ces mots-clés qui sont expérimentation, qui sont prendre soin, l'imperfection, l'incertitude, l'improvisation, l'exception, parce que c'est toujours des lieux exceptionnels, ça soit par sa banalité ou parce qu'on est dans des sites classés ou pollués, ça soit, et la réversibilité, puisque si tu veux, tout part de l'idée que si on intervient, le lieu doit quand même pouvoir revenir.
Liliana Motta est la seconde paysagiste à être invitée par le CIAP, après Gilles Clément, qui a établi la charte paysagère du centre. L'avoir choisie témoigne d'une nouvelle inflexion, donné par Marianne Lanavert, directrice du Centre d'art, au peuplement de ce bois de sculpture.
On m'a demandé de faire une intervention dans un endroit qui s'appelle le bois des sculptures, qui a au moins une trentaine ou une cinquantaine d'années des œuvres, des artistes très connus qui ont tous eu une vision sur la nature, sauf que la vision depuis les années 70 sur l'environnement a énormément changé. Aujourd'hui, on ne voit pas l'environnement, il y a des notions qu'on ne voyait pas avant, par exemple... La notion de pollution est une notion très récente. Par exemple, quelque chose que tout le monde connaît, le jardin en mouvement,
le
tiers-paysage, les espaces vagabonds. En fait, tous ces lieux-là, qui sont des règnes de biodiversité, c'est aussi des lieux extrêmement pollués. En fait, avant, on voyait ça qu'en deux dimensions. Aujourd'hui, on les voit, disons, en trois dimensions. On sait qu'en fait, ces lieux-là sont quelque part créateurs de biodiversité, parce que là, la pollution n'est pas forcément négative, la pollution peut être créative de biodiversité, mais avant on ne voyait pas comme ça, on n'avait pas cette sensation qu'on faisait partie d'un tout, et que donc on représentait la nature. Dans le bois des sculptures, il y a beaucoup des significations, de qu'est-ce que c'est la nature, comment on la représente, et en plus de ça, la prétention de la réamener à la nature en lui disant bah voilà, t'es comme ça. Évidemment, comme il y a beaucoup de filles, je peux me le permettre, c'était surtout des garçons qui voyaient comme ça les choses. Petite parenthèse, laisser toujours sa signature, laisser sa trace, son empreinte, voilà. Donc une œuvre à protocole, c'est tout le contraire de ça, c'est pas une œuvre à effet. On n'essaye pas de créer un effet, ça veut dire que les gens rentrent, ils voient une boule gonflée, ils disent « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Voilà, c'est un artiste qui a fait ça. Là, c'est tout le contraire, c'est quelque chose de très subtil, c'est presque, c'est très abstrait, mais ça résume bien, quand vous êtes là, cette sensation d'être dans un amphithéâtre, un peu comme on faisait au XVIIe ou au XVIIIe siècle. On était beaucoup dans la nature avant, on jouait dans la nature, et là, cet endroit, il est incroyable, parce que, en fait, c'est ce qui manque souvent à des artistes qui travaillent avec la nature, c'est la connaissance écologique et botanique du lieu où il se trouve. Là, si vous analysez écologiquement c'est ce qui s'est passé, c'est assez extraordinaire. On a un arbre central, c'est un être qui est capable de pousser dans des conditions très difficiles, très peu de lumière. Et là, si vous voyez tout autour, on n'a que des forêts, des résineux. Tandis que là, lui tout seul, il est arrivé à se développer. Vous voyez, là, les arbres sont comme les hommes, ce n'est pas pareil tout seul qu'en société. Lui, malgré de se trouver en société, il ne s'est pas allongé comme cet bouleau qui est très ancien. Vous voyez comme il monte, il s'affine pour essayer de trouver la lumière. Lui, je ne sais pas comment il a fait, mais il a vraiment constitué une circonférence assez importante. Et si vous regardez les frondes de sa couronne, elle est assez impressionnante, elle est énorme. Et regardez vers le lac, vous voyez qu'en fait, tous ces fruits ont tombé. Et tout ce que vous voyez en demi-cercle là, ce n'est pas du tout planté par moi. C'était là déjà, c'est des êtres qui ont né de cette grande être centrale. C'était là, c'était tout seul, je n'ai rien fait. Je n'ai pas planté, on a fait ça en 3 jours. En fait, si je disais tout à l'heure, j'aurais donné les dessins d'un amphithéâtre de nature, une entreprise de paysage à réaliser, la première chose qu'il aurait fait, c'est couper cet arbre. Parce que dans une scène, on ne met pas un obstacle au milieu entre la scène et le public. On aurait dit cet arbre, il faut le couper. Tandis que cet arbre-là, au contraire, donne tout le sens à cet endroit. Peut-être que aussi dans ce protocole, qui est un protocole toujours d'expérimentation, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de la recherche, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de trouver de nouvelles manières de travailler. Dans cette expérimentation, il y a le côté prendre soin, justement. On peut se permettre d'expérimenter, mais il faut prendre soin. Il faut que cette imperfection, cette incertitude, cette improvisation, puisque l'idée de les garder, c'est une improvisation. C'est que quand on a commencé à dégager, cet endroit était complètement opaque au départ et on ne pouvait pas rentrer. Et donc, quand on a eu l'intuition que cet arbre-là ne devait pas être coupé, c'est une improvisation, mais une improvisation qui vient à partir d'un savoir de combien de temps cet arbre a dû prendre pour pousser et sa ramure, et comprendre en fait que ses fruits, ses fins que vous voyez par terre, en fait avaient arrivé à s'essaimer en demi-cercle juste à la tombée de ses rames. Donc c'est un petit peu ça le protocole, c'est expérimentation, c'est prendre soin, c'est imperfection, c'est incertitude, c'est improvisation, mais c'est aussi réversibilité. Ça veut dire que si je m'en vais demain et que le centre d'art ne veut plus de cette installation, elle revient à elle-même sans qu'on aille à faire quoi que ce soit. Et l'idée aussi que cette pièce puisse se reproduire ailleurs ne veut pas dire qu'elle sera reproduite exactement, c'est pas une recette. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra procéder avec ce protocole pour pouvoir, dans un lieu précis, établir un lieu de rencontre, de parole, mais dans sûrement avec une forme différente. Ça ne sera pas à chaque fois trouver un arbre au milieu, voilà. Donc, tout ce qu'on a sorti, tout ce qu'on a coupé, vous les trouvez derrière. Des petits fermes, le cercle, le demi-cercle, des scènes. Donc, rien n'était amené plus loin. Et tout a été déposé de manière ordonnée, un peu comme on fait les forestiers pour débarder du bois. Et donc, quand c'est ordonné, ça ne s'assimile pas à la poubelle. Si j'aurais mis tout ça dans un tas horrible, on serait impatient que ça parte. Quoi. Tandis que là, de façon ordonnée, on sent l'intention, on sent un ordre, et ce n'est pas dérangeant au regard. Quoi. En fait, les paysagistes ont un double atout, ça veut dire avoir des idées d'espace, des points de vue, des perspectives, mais avoir aussi une connaissance végétale, parce que c'est ça qu'ils nous donnent, comme on travaille dehors. Je n'ai pas besoin d'un électricien, j'ai besoin de quelqu'un qui se connaisse vraiment en botanique, en écologie. Et c'est à chaque fois un groupe nouveau qui est formé autour du travail qui se réalise. Voilà. On a fait ça avec beaucoup de plaisir et grâce au Centre national d'art plastique. Et évidemment Marianne qui nous a choisi.
Merci. Merci. Hein.
Merci. Merci. Ah, autre chose, la dernière, et après je ne parle plus. L'idée c'était que d'avoir ici, puisqu'on est dans un lieu où on travaille tellement sur le dehors, et les œuvres sont dehors, c'est d'avoir aussi un lieu de parole, un lieu de réunion dehors. Et je sais qu'en fait, là on est tous debout, mais ce n'est pas pareil si je vous invite au restaurant que si je vous invite à faire un pique-nique avec moi. On va s'asseoir par terre, on va avoir des positions qui ne sont pas pareilles que dans un restaurant. Donc il y aura sûrement une manière de se rencontrer différente que d'une manière traditionnelle. Et c'est pour ça que cet lieu, je suis très contente de penser que l'œuvre d'art commence après moi. C'est quelqu'un d'autre qui viendra, qui prendra possession et qui amènera ça à quelque chose d'autre.
C'est très bien. Hein. Nous, on fera en fait entretenir cette œuvre par le Centre d'aide au travail des Moutiers, avec qui on travaille déjà pour plusieurs aménagements paysagers ici. Et sinon, je voulais aussi vous dire que la commande à Liliana Mota s'inscrit dans une certaine histoire du bois de sculpture, ce qu'on appelle le bois de sculpture, qui est le parc de sculpture de l'île de Vassivière, où il y a déjà des œuvres végétales qui avaient été commandées, notamment du temps de Guy Tortosa, les œuvres d'Éric Samac, les rêves de Tujika, l'œuvre Balkis en sarrasin que vous avez de l'autre côté du centre d'art par Chiara Parisi à Yona Friedman, Il y a la charte paysagère de Gilles Clément que tu as mentionnée, qui date de 2002. Et on essaye de renouveler l'idée du le modèle du parc de sculpture, qui me paraît un modèle qui a aujourd'hui beaucoup vieilli, qui est plutôt un modèle des années 80, et avec aussi ce périmètre très fermé de l'île. Et pour travailler avec des œuvres qui demandent soit d'être inscrites dans le temps, dans une saisonnalité, des œuvres qui demandent d'être vues plusieurs fois à plusieurs moments, des œuvres qu'on peut réactiver, des œuvres aussi qui sont simplement éphémères et qui sont assumées comme telles. Et c'est une dimension qui est difficile à communiquer au public, cette question d'une œuvre dans le temps. Mais on travaille dessus avec toute l'équipe pour valoriser cette nouvelle dimension du bois de sculpture.
Pour Liliana Motta, répondre à une telle commande change quelque peu son terrain de travail.
C'est vrai que le projet qui m'intéresse plutôt, plus que celui, ça c'est plutôt assez ponctuel, assez bien, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les sites pollués. Je travaille beaucoup à Bataville, dans des sites où en fait...
Bataville,
c'est dans le côté, à côté, entre tu sais, Metz, Nancy, un endroit où il y avait un fabricant de chaussures, qui était l'équivalent d'André, par exemple, c'est les chaussures Bata, et c'était un grand patron à la 19e siècle, donc il construisait des villes idéales Bataville, et donc les terrains sont très pollués, et là, j'ai fait un cheminement, je travaillais avec les ingénieurs, dans l'idée que ces terrains ne doivent pas être oubliés, on ne doit pas cacher, on ne doit pas les oublier, c'est des bombes à retardement, ou bien c'est des pépites cachées pour le futur, mais surtout, il ne faut pas les cacher, puisqu'en fait, les gens vont jeter des ordures là-dessus, par-dessus, puisque c'est fermé, donc ça devient un lieu de non-droit et compagnie. Donc ça m'intéresse, c'est les réflexions sur ces sites-là, parce que c'est vraiment des lieux qui ont besoin des si tu veux, c'est très récent. Si tu veux, beaucoup d'ingénieurs me disent le concept de pollution n'existait pas dans les années 80.
Ça dépend pour qui.
En fait, on a toujours eu l'idée de la pollution, tu sais, atmosphérique, comme disait. Tu vois, l'air n'est pas pur et tout ça. Mais avant, on n'avait pas la conscience. On avait l'impression que si on jetait un truc par terre, ça rentrait, c'était caché, c'était fini, ça s'évaporait ou ça s'est mélangé avec l'eau. C'est maintenant qu'on mesure, on se rend compte qu'il y a des traces partout de tous ces éléments qu'on a fait. Et en fait, la pollution, tu n'as pas un cancer tout de suite, c'est l'accumulation, quoi. C'est 30 ans après. C'est pour ça qu'en fait, on ne voyait pas tout de suite le mal qui est travailler avec du triclos, boire du triclos quand on avait trop soif, dans les grandes fonderies à Colombelles et tout ça. Les gens, on n'avait pas, c'est pas les gens, les scientifiques n'avaient pas conscience de ce que cette pollution pouvait produire. Maintenant, existe, c'est ce qu'on appelle l'évaluation qualitative des risques sanitaires, qui est l'équivalent presque d'un permis de construire pour les sites. Qui ont été des sites industriels, ça veut dire qu'on ne peut pas s'installer sans avoir fait des enquêtes pour savoir si on peut mettre une crèche. Mais ce n'est pas pour ça, si tu veux, ce n'est pas parce que c'est des endroits qui ont été pollués qu'ils doivent être fermés et cachés. Je trouve qu'on a un défaut dès qu'on explique souvent les choses à l'envers. Par exemple, les plantes invasives qui ont fait beaucoup parler la presse. C'est pas les plantes invasives qui étaient le problème dans des endroits. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'histoire des plantes invasives, c'est des plantes qui viennent d'ailleurs, des étrangers, qui.
On a typiquement le pin douglas, même s'il est cultivé, on pourrait dire que c'est un invasif.
Voilà, donc cette plante-là, elle vient d'ailleurs, elle occupe un site. Et souvent, c'est des sites, ou bien des sites anodins, ou bien des sites patrimoniaux. Et on dit que cette essence vient chasser l'indigène. Mais en fait, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est que ce n'est pas la plante qui vient, qui est la coupable. C'est que le site, là où... C'est des indicateurs. Ces lieux-là ont été perturbés par les activités de l'homme qui ont provoqué que ces plantes viennent s'installer. Et ces plantes-là... éventuellement, elles partiront une autre fois ailleurs ou disparaîtront. Pour exemple, le cas de la Colorpa taxifolia dans le sud de la France, c'est ce qu'on appelait l'algue tueuse. C'était des scientifiques eux-mêmes qui avaient vidé un aquarium dans l'eau. Et donc, sur un milieu aquatique où il n'y a pas des milieux différents, ça veut dire que tu n'as pas du sec, du mouillé, mais tu n'as que du mouillé partout. Donc, ça s'est répandu d'une manière catastrophique. en faisant des problèmes pour la pisciculture, etc. Aujourd'hui, cette algue n'est plus là, elle a disparu, on n'en parle plus. Et le seul texte scientifique que j'ai trouvé là-dessus dit « elle a disparu de manière miraculeuse ». C'est ce qui n'est pas très scientifique, parce qu'un miracle, ce n'est pas de l'ordre du scientifique. Et c'est ça que j'ai toujours situé quand je me suis intéressée, pour exemple, à cette question des plantes invasives, parce que tu entends bien mon accent et tu vois bien que je viens d'ailleurs. Et je me disais, on ne peut pas incriminer quelqu'un parce qu'il n'est pas né ici, personne choisit où naître et éventuellement où vivre. Et donc on ne peut pas dire qu'une plante est méchante ou une plante est mauvaise parce qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle est étrangère en milieu. Et donc les scientifiques me disaient, mais vous ne pouvez pas donner votre opinion parce que vous n'êtes pas scientifique. Et en fait la réponse a été, j'ai trouvé la réponse en leur disant, mais votre langage n'est pas scientifique, votre langage est politique. Et c'est de ce point de vue-là que je ne peux pas accepter, que je peux témoigner que votre discours n'est pas le bon. Et donc, si tu veux, il y a toujours une analyse à faire de ces problèmes-là qui ne peut pas être superficielle. Tu ne peux pas arriver à des conclusions comme ça du premier coup. Il faut vraiment s'intéresser de manière systématique et un peu méthodique. Ah, bon, moi je m'intéresse à ça, j'imagine que quand on ne s'intéresse pas à l'écologie, tu ne vas pas te plonger là-dedans. Mais tu ne peux pas donner une opinion si tu ne connais pas, si tu veux investiguer. Comme pour les terres polluées, c'est vraiment toute une... c'est l'histoire industrielle, si tu veux, on ne se rendait pas compte avant. Ce n'est pas que c'est les méchants qui ont fait ça, c'est tout le monde faisait ça. On ne savait pas, on ne se rendait pas compte. Donc maintenant... comment faire pour que tout ça ne soit pas oublié, voilà.
C'était la paysagiste Liliana Mota, à qui a été passée commande d'un geste paysager sur l'île de Vassivière, dans le bois de sculpture, par le Centre national des arts plastiques. Et ça, c'était dans le cadre de l'exposition Transhumance. Transhumance que vous pouvez voir jusqu'au 25 novembre sur l'île de Vassivière et dans différents villages aux alentours du lac. Et vous pouvez également profiter des œuvres sonores d'artistes contemporains diffusées tous les soirs à 23h sur Radio Vassivière. Et ce, jusqu'au 25 novembre.